Chapitre 14e, au bord d'une tempête. Comment, si près que je l'étais d'un grand événement, n'aurais-je pas désiré y jouer un rôle, fût-ce simplement d'observateur? L'Égypte était devenue soudain le centre orageux du monde à une heure où le hasard voulait que je fusse là. Demeurer au Caire ne m'était pas possible. Je devais trouver un moyen quelconque de partir pour la frontière. Nous étions en mars. Bientôt le climat deviendrait trop chaud pour ma femme. Cependant, elle eut la bonté de me dire qu'elle attendrait avec ma sœur jusqu'en avril si je voulais lui promettre d'être de retour dans ce délai. On estimait généralement que les choses allaient se précipiter, ce qui, lorsqu'on y réfléchit après coup, n'est guère vraisemblable. Bref, j'avais hâte de m'élancer vers le sud. Un expédient s'offrait à moi. Les grands journaux anglais du matin avaient tous déjà leurs correspondants sur place. Mais il était peu probable que ceux du soir fussent également pourvus. Je demandai par câblogramme à la Westminster Gazette qu'elle me désigna pour son correspondant temporaire. Un câblogramme fit droit à ma requête. Muni de cette pièce, j'allais trouver l'autorité compétente. Un ou deux jours plus tard, j'obtenais son agrément, tout était en règle. J'avais à assurer moi-même les conditions de mon voyage, et d'abord à me procurer une sorte d'équipement. Cela fut vite fait. Je passai condamnation sur la qualité des articles. J'achetai un gros revolver italien, arme fort laide, tout à fait indigne de confiance, et m'approvisionnait de 100 cartouches. J'achetai aussi une bouteille à eau, d'un bois neuf et résineux, qui donnait à son contenu un horrible goût de térébenthine. On eût cru boire du vernis. Mais il y eut des jours où j'aurais bu du vernis tout aussi bien que n'importe quoi, pourvu que ce fût liquide. En légère veste kaki et culotte de cheval, portant une petite valise, la branche de sapin pendue selon l'usage autour de moi, je partis du Caire pour Assyut, où attendait un petit bateau fluvial. Il était rempli d'officiers se rendant au front, et nous passâmes ensuite jusqu'à Assouan quelques jours agréables. Parmi eux se trouvaient de tout jeunes gens qui, depuis, se sont fait largement connaître. Maxwell, aujourd'hui général, Sir John Maxwell, et Hickman, qui devait s'élever lui aussi au sommet de la hiérarchie. Je me rappelle encore un lieutenant de cavalerie nommé Smythe, dont la tranquillité, la douceur ne me disaient rien qui valût pour la rude besogne à entreprendre. La première fois qu'ensuite j'entendis parler de lui, ce fut le jour où la Gazette annonça qu'il recevait la Victoria Cross. Dans le métier militaire, rien de plus trompeur que les apparences. Tel, violent et truculent, se défile, là où tel autre, aimable et studieux, montre un cœur d'airain. Par là s'explique l'erreur des Allemands, dans la dernière guerre, quand ils jugeaient l'Anglais un insulaire médiocrement guerrier. La grande question à l'ouverture de la campagne et de savoir ce que vaudraient, comme solidité, les troupes indigènes de Fella. Les 5 bataillons noirs étaient aussi bons que possible, mais les antécédents de 8 ou 9 bataillons égyptiens étaient peu rassurants. L'arabe du Soudan est un fanatique. Il se jette en fou furieux au devant de la mort. Il ne rêve que de mêler où il puisse enfoncer sa lance dans le corps de l'ennemi, dût-il, avant de l'atteindre, être lui-même frappé de plusieurs balles. Les Égyptiens soutiendraient-ils de pareils chocs? On ne le croyait pas. Aussi avait-on fait appel, pour renforcer la ligne de bataille, à des troupes britanniques, Connaughts, Straffords et autres. Heureusement, les troupes indigènes, dont le cas eût été sans cela désespéré, avaient pour chef des officiers d'élite prélevés sur l'armée anglaise. Kitchener n'y avait voulu que des célibataires, s'agissant d'un service qui exigeait un dévouement capable d'aller jusqu'à l'extrême. La solde et la vie y étaient bonnes. Kitchener était donc maître de ses admissions et de ses refus. Et c'était un curieux spectacle que celui de ces chefs magnifiques, visages clairs et moustaches cirées, marchant côte à côte avec leurs soldats. Entre eux et les hommes, les relations étaient paternelles. Un officier de troupe noire, quand il allait au Caire, n'en revenait pas sans une tête d'oreiller bourrée de sucreries à leur intention. Les Égyptiens étaient plus mystérieux, moins gais, moins aimables. Cependant, leurs officiers n'avaient pas pour eux un moindre attachement. Et ils ressentaient vivement la défiance que manifestait envers eux le reste de l'armée. À l'une des premières batailles, un officier anglais s'écria, au moment où il s'emparait d'un drapeau ennemi, « Les Anglais n'auront toujours pas celui-là. » Tel est bien l'esprit qui fait de l'officier anglais, en Égypte comme dans l'Inde, un conducteur idéal de troupes indigènes. Même à l'époque de la grande révolte hindoue, il ne permit pas qu'on prononçât un mot contre ces hommes, jusqu'au jour où il fut massacré par eux. On nous retint à soi une semaine, défense d'aller plus loin. Déjà nous étions dans la zone menacée par les raids des Arabes, qui l'année précédente avaient encore poussé plus haut. Le désert est comme la mer, avec des chameaux en guise de navire, vous pouvez y aller frapper n'importe où avant même qu'on ait eu le temps de pressentir votre attaque. Cette éventualité ne semblait guère occuper l'esprit des officiers retenus à Assouan. Ils n'en montraient pas plus d'inquiétude que s'il se fût agi pour eux d'une tournée Cook, et non pas d'une expédition dangereuse. Si dangereuse qu'à peine il était revenu un homme de la dernière armée, celle de Hicks Pacha, expédié dans le sud. Je ne les vis vraiment hors d'eux qu'une fois. Je rentrai à l'hôtel où était le quartier général, lorsque dans le hall je les aperçus groupés en foule autour du tableau où s'affichaient les nouvelles. Un télégramme était là, qu'ils lisaient, dressé sur la pointe de leurs bottes éperonnées, tendant le cou et donnant tous les signes d'un intérêt passionné. « Ah, pensais-je, le voile se lève enfin. Le califat est sans doute en marche, avec ses cavaliers, ses fantassins, son artillerie. Nous sommes à la veille de la bataille. » Je jouais des coudes, j'avançais la tête entre les rangées palpitantes de casques blancs. Le télégramme rendait compte du match nautique Oxford-Cambridge. Il n'était personne que Nanima le plus beau zèle. Hickman, pendant toute la durée du voyage en bateau, ne ruminait que plan de combat. Arrivé à Assouan, il trouva l'ordre d'aller à Kenney acheter des chameaux. C'était pour faire tomber de haut un homme qui brûlait d'agir. Comme je lui en exprimais ma désolation, « Non, me dit-il, c'est très bien. L'armée a besoin de chameaux. Je suis l'homme qu'il faut pour les acheter. Nous travaillons tous à une fin commune. » Il y a là une forme générale d'abnégation. L'officier, dans sa plus haute expression, est vraiment un type splendide. Une réédition élargie du jeune homme de nos écoles, dissimulant, sous un extérieur de gaieté, un sérieux profond que lui-même, à l'ordinaire, dût-il se faire tuer, refuserait d'admettre. On m'en nomme à trois, qui, à l'endroit où s'arrêtait le chemin de fer, occupaient un travail essentiel, et tous, avec une fièvre, qui les eût dispensés de rien faire, s'amusaient chaque soir à jeter un dollar dans un chapeau, après quoi ils prenaient leur température, et l'argent revenait à celui qui avait la plus forte. Assouan est au pied de la cataracte, laquelle s'étend sur une longueur d'environ 30 000. Un chemin de fer miniature pourvoyait au transbordement des marchandises, que l'on rechargeait ensuite sur d'autres steamers à Tchalal. Ce n'était pas une petite affaire. Je sympathisais avec le capitaine Morgan qui en avait la charge, aidé par des manœuvres égyptiens et des chaînes de forçat. Morgan m'avait une fois vendu un cheval, et il en restait gêné vis-à-vis de moi, mais il vit que je ne lui en gardais pas rancune, à l'acheteur de se méfier. Je reconnaissais déjà chez lui ses qualités d'organisation qui le rendirent précieux dans la campagne contre les Boers et dans la guerre européenne. Il mourut en 1923, général et chargé d'honneur. Je me rappelle avoir assisté à une de ces opérations de rechargement effectuées par le 7e régiment après une longue et pénible marche dans le désert. À la fin, les hommes étaient à ce point éreintés qu'il en fallait 4 pour soulever une boîte de biscuits de 60 livres. Mes grands confrères de la presse étaient maintenant arrivés. Où est la carcasse, là se ressemblent les aigles. J'avais su me faire des amis parmi eux. Il fut décidé que nous marcherions tous ensemble. Nous étions 5 qui partîmes sous la conduite de Knight, du Faucon, correspondant du Times. C'était un homme grand et musclé, yachtsman fameux et chercheur de trésors réputé, voyageur, batailleur et savant. Il arrivait de Madagascar, où il avait accompagné l'expédition française. Après lui venait Scudamore, du Daily News, un petit celte vif comme le mercure, plein d'esprit et d'allant. Acheter des chameaux, bien entendu aux frais du journal, était l'occupation favorite de Scudamore. Ce qui fit dire à Robinson, directeur du Daily News, à la première nouvelle de la guerre sud-africaine, « Heureusement qu'il n'y a pas de chameaux en Afrique du Sud. » C'était prendre une bonne leçon de politique orientale que de voir Scudamore procéder à ses achats. Il m'en montra la manière. Un arabe vous amène l'absurde bête. Vous le regardez avec mépris et vous ne sauriez avoir un meilleur modèle d'expression que celui qu'elle vous offre elle-même. Vous en demandez le prix, le vendeur vous répond 16 livres. Vous poussez un cri de dérision, vous faites un grand geste du bras, comme pour demander à l'homme de s'en aller avec sa bête hors de votre vue, et tournant les talons, vous vous éloignez rapidement dans la direction contraire. La distance que vous aurez à parcourir dépend du prix demandé. Si vraiment vous le jugez excessif, vous pourrez le revenir avant votre dîner. Mais en règle générale, il suffira que vous fassiez une centaine de yards, puis vous manœuvrerez de façon à rejoindre le chameau et son propriétaire. Vous vous arrêtez alors devant eux, vous les regardez d'un air de surprise désintéressé. Comment ? Ils sont encore là ? Et l'arabe de demander quel prix vous lui en offrez. Vous lui répondez 8 livres. C'est alors à son tour de jeter les hauts cris, de faire volte-face, de parcourir 100 yards, le chameau trottinant sur ses derrières, et de revenir vous dire qu'il accepterait 14 livres. Vous vous récriez de plus belle. De plus belle, vous lui signifiez qu'il n'a qu'à se retirer. Et la négociation se poursuit de la sorte. À chaque fois, le cercle des allées et venues se resserre jusqu'à ce qu'enfin vous vous accordiez sur un prix moyen. Mais c'est seulement quand vous avez acheté votre chameau que vos ennuis commencent. Pas d'animal au monde plus baroque et plus décevant. À le voir si grave, si digne, jamais vous ne soupçonneriez la vilenie qu'il médite. Il s'approche, avec cet air d'amabilité supérieure qui est celui d'une grande dame visitant une école du dimanche. Il ne lui manque, diriez-vous, qu'un face-à-main au bout d'un éventail. Vous avez tout juste le temps de dire « Mais il va m'embrasser, le mignon !» Et deux effroyables rangées de dents vertes, claquant à votre hauteur, vous font faire un bond en arrière dont vous n'auriez pas osé vous croire capable à votre âge. Le masque tombé, on ne saurait rien concevoir de plus démoniaque qu'une tête de chameau. Nulle gentillesse, nulle avance ne semble devoir vous gagner l'animal, ni vous faire accepter de lui comme son propriétaire. Cependant, il vous faut être indulgent à une bête qui, chaque jour, vous portera une charge de 600 livres sur un parcours de 20 000 sans vous demander à manger ni à boire. Mais je m'écarte de mon sujet. Les deux autres journalistes qui composaient notre troupe étaient Beeman, du Standard, fraîchement débarqué de Constantinople, où il rapportait des façons quasi orientales, et le représentant de la Pall Mall, Julian Corbett, homme doux et amène, qui devait être plus tard l'historien naval de la Grande Guerre. Comme moi, Corbett n'était qu'un amateur parmi les professionnels et tenu de regagner le Caire à une date fixe. Aucune action importante n'étant évidemment sur le point de se produire, nous décidâmes d'effectuer par la route une partie de notre trajet. Une force de cavalerie égyptienne était en marche, on nous ordonna de nous y joindre, elle nous servirait d'escorte. Jugeant plus agréable d'aller de notre côté, nous nous arrangeâmes pour la perdre en chemin. Il y avait quelques risques à voyager de la sorte, isolément, sur la rive droite, sans aucune protection sur notre flanc gauche. Mais d'autre part, la poussière d'un corps de cavalerie nous serait insupportable. Nous partîmes donc à d'autres chameaux, accompagnés d'autres chameaux qui portaient nos bagages, et traînant à notre suite tout un cortège de serviteurs. En 4 jours, nous atteignîmes Korosko, nous nous poussâmes par eau jusqu'à Wadi Alpha, sur la frontière, tandis que chameaux et serviteurs continuaient d'aller par la route. Jamais je n'oublierai ces jours, ou plutôt ces longues nuits, car nous nous levions à 2 heures du matin, et le principal de notre marche s'accomplissait avant le lever du soleil. Je suis encore hanté par ce ciel de velours violet, par ces énormes et innombrables étoiles, par ces 2000 lunes se mouvant avec lenteur au-dessus de nous, cependant que nos chameaux, de leurs pas silencieux, semblaient nous porter sans effort à travers un merveilleux monde de rêves. Scudamore avait une belle voix roulante de baryton que j'entends encore monter et retomber dans l'air immobile du désert. Le spectacle dont nous jouissions était pour nous comme un intermède dans la vie réelle. Je le rompis seulement une fois par une prouesse peu commune. Je tombai de chameau. J'avais déjà fait comme cavalier bien des chutes. Celle-ci renouvelait mon expérience. Vous n'avez pas, à deux chameaux, une selle proprement dite. Vous êtes assis sur un plateau de cuir recourbé, de sorte que lorsque ma bête, apercevant à ses pieds un peu de verdure, s'abattit soudain sur ses pattes antérieures, je piquais une tête le long de son cou. Ce fut comme si, dans un exercice acrobatique, je descendais un tuyau d'arrosage. J'arrive au sol, fort étonné, mais sain et sauf. Une ou deux images surgissent dans mon esprit. Celle, par exemple, d'une sorte de lézard aquatique très bizarre, je ne dis pas un crocodile, allongé sur le sable. Je fis feu sur lui de mon revolver italien, bien que cette arme me semblât surtout dangereuse pour moi, et je vis ensuite l'animal se débattre dans l'eau. Une autre fois, j'aperçus en installant le soir ma couchette une espèce de limace, longue d'environ 18 pouces et munie de tentacules, qui s'enfuit précipitamment et disparut. C'était un serpent venimeux, peut-être un congénère de celui qui avait donné la mort à Cléopâtre. Nous nous réfugiâmes dans une cabane en ruine, espérant y trouver le sommeil. La pâle clarté de la bougie nous montra, courant en rond au pied du mur, une bête que je pris pour une souris. Mon étonnement fut extrême de la voir tout à coup grimper au mur, puis en redescendre et s'arrêter. Elle agitait dans notre direction ses pattes de devant. Scudamore fit un bond dans l'air, courut à elle et l'écrasa. Il n'en resta plus qu'un pied carré d'immonde bouillie. Nous venions d'avoir affaire à la vraie tarentule, insecte redoutable fort commun dans ces régions. Un autre souvenir que je garde est celui-ci. Pour je ne sais quelle raison, en la circonstance, nous ne nous étions pas mis en route dans la nuit. Le point du jour nous trouva repos dans notre petit camp, sous un bouquet de palmiers près du sentier bordant le Nil. À mon réveil, allongé entre mes draps, j'aperçus brusquement un cavalier d'étrange mine. C'était un Nubien, à la face noiraude, aux yeux de feu et tout chargé d'ornements d'argent. Impossible d'imaginer figure plus sinistre et plus barbare. Il était le type même d'un de ces guerriers du Mahdi que nous savions avoir à craindre. Je ne fais pas volontiers l'alarmiste, surtout avec des gens habitués au péril de la guerre. Aussi me gardais-je de rien dire, mais je m'arrangeais pour réveiller l'un de mes compagnons qui, à l'aspect du cavalier, pousse un soupir en murmurant « Bon Dieu !» L'homme, d'ailleurs, ne tourna pas même la tête de notre côté. Il passa, allant au nord. Je ne doute pas qu'en réalité ce ne fût un des indigènes que nous avions à notre solde. Sans cela, notre sort était réglé. Une nouvelle que j'écrivis dans la suite, les trois correspondants s'inspiraient de cet incident. Nous fûmes reçus en audience par le commandant des troupes de Korosko, Youssouf Bey, soldat turc au service de l'Égypte. C'était un homme bizarre, au visage de bois. Il nous offrit du vinaigre de framboise dans de longs verres roses et nous reconduisit ensuite à notre bateau. Deux jours plus tard, nous débarquions à Wadi Halfa, où régnait sur les berges le même aspect de branle-bas militaire que nous avions laissé à Assouan. Wadi Halfa est, comme Assouan, au pied d'une cataracte. Tous les objets de transport y sont mis à terre pour être expédiés par une piste de 30 000 à Sarras. Je gagnai à pied, le premier jour, la petite station où commence la piste. Il y avait là un officier de haute taille qui, avec le concours d'un seul homme, procédait aux opérations et surveillait le chargement des marchandises. Il tourna vers moi une figure sévère, et je reconnus en lui Kitchener, commandant en chef de l'armée. C'était un trait de son caractère qu'il ne s'en remettait point au hasard, ni à un subordonné de choses si capitales, mais s'assurait de ses propres yeux qu'il avait vraiment les outils dont il avait besoin. Je l'avais déjà rencontré au Caire lors d'une course de chevaux. Apprenant qui j'étais, il me pria à dîner pour le soir sous sa tente. Nous y discutâmes en toute franchise les éventualités de la campagne. Son chef d'état-major qui, si je ne me trompe, s'appelait Rage, tombait de fatigue au point de s'endormir entre les services. Je saisis le sourire amusé de Kitchener en le regardant. Avec un tel chef, on devait aller jusqu'au bout de ses forces. Une de mes nouvelles connaissances au jour dont je parle fut Herbert Quine, qui ouvrait ses ailes comme correspondant de guerre et représentait, autant qu'il m'en souvient, le Chronicle. Je devinais combien il promettait. Quand, plus tard, j'entendis reparler de lui, il était le correspondant de Reuters pour la guerre contre les Bourgs, et peu de temps après, il devenait le directeur du Morning Post qu'il dirige encore. Ces jours de Halfa marquèrent pour nous le commencement d'une amitié spontanée qui ne s'est jamais démentie, nonobstant les occupations qui nous éloignent l'un de l'autre. Ce doit être une des joies de l'au-delà que l'on y puisse cultiver ses amitiés. J'eus aussi des relations amicales avec un tout petit officier très brave, du nom de Henley, qui venait de joindre l'armée égyptienne. Il n'était qu'au début de la carrière. Mais si je prévis dès lors qu'il monterait en grade, j'aurais été bien étonné d'apprendre en quelles circonstances nous nous reverrions un jour. Engagé, pendant la Grande Guerre, dans un corps de volontaires, j'étais à mon rang de troupier sur le bord d'une route quand vint à passer un général moucheté de rouge et coiffé d'une casquette galonnée. Il me regarda, m'aperçut, et je reconnus qui, Henley. Surpris lui-même au point d'en oublier l'étiquette militaire, il me sourit et s'inclina. Que peut faire un soldat dans le rang quand un général s'incline en souriant devant lui? Il ne peut se mettre cérémonieusement en garde à vous ni saluer. Je me bornai à cligner l'œil gauche. Telles sont les circonstances où j'appris que mon capitaine d'Égypte était général de brigade. Nous poussâmes jusqu'à Sarras. Cet avant-poste de la civilisation nous apparut, au premier coup d'œil, comme un amas de sacs de sable et de fils de fer barbelés. Le Mahdi avait en effet un de ces postes en amont du fleuve, à peu de distance. Regardant au sud les pics lointains du Dongola, on éprouvait un sentiment extraordinaire à se dire qu'entre eux et nous, il n'y avait que sauvagerie et mort. La petite forteresse sentait la vraie guerre, mais rien n'y faisait augurer une prochaine avance. J'eus au reste, de Kitchener lui-même, l'assurance que je n'avais nul besoin de m'y attarder, car rien ne se passerait avant qu'on eût rassemblé les chameaux et ils devaient être au nombre de plusieurs milliers. Le mien avait cessé de m'être utile, je l'offris à l'armée. Puis Corbett et moi nous apprêtâmes au départ. On nous recommanda de nous tenir sur le qui-vive et de sauter dans le premier bateau vide qui descendrait le fleuve. C'est ce que nous fîmes un matin avec notre mince bagage. Une fois à bord, nous apprîmes que les vivres faisaient totalement défaut et que le navire ne s'arrêterait pas de plusieurs jours. L'amarre n'était pas encore larguée. Je m'élançai vers la première boutique possible, une de ces baraques qui poussent comme des champignons dans le sillage d'une armée. Celle-là était tenue par un grec. Tout y avait déjà été vendu, sauf des abricots en conserve. J'en achetai plusieurs boîtes et n'eus que juste le temps de remonter à bord car le navire démarrait. Nous réussîmes à obtenir de l'équipage un peu de pain arabe. Avec les abricots, il constitua l'unique menu de nos repas tout le long du voyage. Puissais-je, tant que je vivrai, ne jamais revoir d'abricots en conserve? Leur écœurante douceur s'associe dans ma mémoire aux confessions de Rousseau, dont il m'était tombé dans les mains une édition française et qui furent mon unique lecture jusqu'au jour où je revis à Soin, ce qui m'a ôté pour jamais l'envie de les relire. Ainsi s'acheva notre expédition sur la frontière égyptienne. Nous étions allés jusqu'au seuil de la guerre. Nous ne l'avions pas franchi. Affaire désappointante. Mais avril inclinait déjà vers sa fin lors de mon retour au Caire, et la chaleur devenait excessive pour une malade. 8 jours plus tard, nous nous retrouvions à Londres. Le 1er mai, assistant comme invité au banquet de l'Académie royale, je découvris soudain sous mon poignet de petites déchirures. Elles provenaient de Chic, sorte de puce venimeuse qui avait pris logement chez moi entre cuir et chair durant mon séjour sur les berges du Nil, et dont les œufs étaient en train d'éclore sous le toit auguste de Burlington House.